VOA Afrique, les infos à Washington.
Exactement 11h en temps universel, je suis René Herman Rumba. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. En RDC, après l'annonce du report des élections d'une semaine, des échauffourées ont éclaté à Limété, le quartier qui abrite le QG de l'UDPS de Félix Tshisekedi, et à la commune voisine de Lembe. Les détails avec Abdourahmane Dia, notre envoyé spécial à Kinshasa.
La nuit était calme dans la capitale congolaise, mais elle a été précédée d'une journée de suspense et de tension. Au fil de la journée, la rumeur enflait et le report du scrutin semblait se confirmer. Mais avant même que Corneille Nangaa, le patron de la CENI, ne prenne finalement la parole, des étudiants avaient déjà commencé à manifester pour la tenue des élections. Ensuite, des militants de l'opposition rencontrés au siège du MLC de Jean-Pierre Bemba ne cachaient pas leur colère et leur déception, tout en promettant de se rendre aux urnes le 23 décembre. Malgré tout, du côté du Front commun pour le Congo, qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, on affirme qu'on était prêt à aller aux urnes ce 23 décembre, tout en se pliant à la décision de la CENI. La campagne électorale s'achève donc ce vendredi comme prévu et ne sera pas prolongée. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
Madagascar, l'ancien président Ange Radzoel a pris l'avantage sur son rival Marc Rabalomalin dans la course à l'élection présidentielle selon les tout derniers résultats provisoires publiés aujourd'hui par la commission électorale. Après dépouillement de quelque 1,7 million de votes sur près de 10 millions d'électeurs inscrits dans 7 225 000 bureaux de vote du pays, M. Radzoel recueillait 54,85% des suffrages contre 45,15% à M. Ravalomanan. Au lendemain des législatives au Togo, aucun chiffre officiel, même pas le taux de participation. Selon la CENI et le gouvernement togolais, l'affluence était au rendez-vous. La principale coalition de l'opposition estime qu'au regard du boycott du scrutin, les législatives doivent être annulées. Le point avec notre correspondante Kay Lawson.
Les Togolais sont dans l'expectative des premiers résultats des élections d'hier pendant que l'affluence divise parti au pouvoir et opposition. Pour le gouvernement de Faure Gnassingbé, les Togolais ont foulé aux pieds les consignes de boycott en allant massivement voter ce 20 décembre. Dans une déclaration, la coalition des 14 partis de l'opposition se réjouit du fait que les populations n'ont pas fait le déplacement des centres de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Pour la C14, le taux de participation ne devrait pas excéder les 5%. Au vu de ce taux jugé extrêmement faible, cette coalition conclut que les élections législatives du 20 décembre doivent être purement et simplement annulées. Tout compte fait, les Togolais étaient aux urnes ce 20 décembre pour un scrutin sans suspense, puisque les autres candidats ne font pas le poids devant unir le parti au pouvoir. Notons que la Commission nationale électorale indépendante CENI dispose d'un maximum de 6 jours pour proclamer les résultats provisoires. Kailasan, Lomé, VOA Afrique.
Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier ses premières sanctions contre les contrevenants à l'accord de paix de 2015. De sources diplomatiques, ces nouvelles mesures coercitives pourraient être encore prises à l'avenir. 3 Maliens sont interdits de voyage. Il s'agit de Mohamed Ousmane Ag Mohamedoum, secrétaire général de la coalition du peuple pour l'Azawad, de Hamdou Ag Azri, un cadre du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié, et de Mohamedou Aga Rissa, un autre homme d'affaires appartenant au Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad. C'est la première fois que l'ONU cible des individus depuis l'adoption en 2017 d'un régime général de sanctions visant le Mali. Au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, saura le 3 janvier si la Cour suprême confirme sa condamnation pour escroquerie, mais ses avocats ont affirmé jeudi qu'il lui reste une chance de se présenter à la présidentielle du 24 février, même en cas de décision négative. En prison depuis près de 2 ans, Khalifa Sall, 62 ans, et farouche opposant au président Macky Sall, reste en course pour la présidentielle du 24 février tant que ses recours ne sont pas épuisés devant les juridictions sénégalaises. Au Niger, face à la montée des attaques terroristes dans la région de Tillabéri, frontalière avec le Mali et et le Burkina Faso, le gouvernement a prorogé de 3 mois la mesure d'urgence en vigueur dans certains départements de cette région. La mesure a même été étendue à d'autres localités jusqu'ici pas concernées. Les populations de la région s'inquiètent de la situation, surtout qu'aucune mesure d'accompagnement ne suit l'instauration de cet état d'urgence. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Nous, population de Tillabéri, réunis ce jour, faisant la déclaration dans la ténèbre.
C'est au lendemain du vote par le Parlement d'une loi prorogeant pour 3 nouveaux mois l'état d'urgence dans 10 des 13 départements que compte la région de Tillabéri que cette déclaration a été rendue publique.
L'état d'urgence rend beaucoup service à ces malfrats qu'aux populations qu'il est censé protéger. En effet, la restriction des mouvements des citoyens et la fermeture de plusieurs marchés accentue la pauvreté ambiante et la frustration des populations. Sur le plan sanitaire, les évacuations nocturnes sont impossibles. Dans le domaine de l'éducation, la restriction des mouvements des enseignants contribue à la perte du temps scolaire. Rappel au gouvernement que le seul fait d'instaurer l'état d'urgence sans mesure d'accompagnement ne saurait être un moyen de dissuasion de ces forces obscurantistes.
La dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri a été évoquée par le chef de l'État Issoufou Mahamadou dans son message à la nation à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République le 18 décembre dernier.
Voilà 60 ans que nous sommes en République. Pendant cette période relativement longue à l'échelle de la vie humaine, notre pays a connu des épreuves. Il en connaît encore face au terrorisme et au crime organisé. La région de Tillabéri, où sera organisé le 61e anniversaire de la République, frontalière du Mali et du Burkina Faso, en est particulièrement affectée. Je fonde l'espoir que nous créerons les conditions de restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble de notre territoire, et en particulier dans cette région, afin que le prochain anniversaire s'y déroule dans la joie et l'allégresse.
Depuis quelques mois, cette partie du territoire nigérien qui fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso est l'objet d'attaques de groupes terroristes et djihadistes avec d'importantes pertes en vies humaines, aussi bien civiles que militaires. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
L'Union africaine a demandé au Burundi, deuxième contributeur de troupes de la force de l'organisation régionale en Somalie, de rapatrier 1000 soldats déployés dans ce pays d'ici le 28 février dans le cadre d'un programme de désengagement progressif de l'AMISOM. Cette demande est contenue dans une note verbale et authentifiée par un haut cadre de l'organisation continentale qui résume les conclusions de la dernière réunion du comité de coordination des opérations militaires de l'AMISOM le 30 novembre à Addis Abeba. Des centaines de Soudanais ont manifesté mercredi dans 3 villes du pays contre la hausse du prix du pain, des protestateurs mettant le feu au siège du parti au pouvoir. Les manifestations ont eu lieu à Port-Soudan, principal port du pays situé à 1000 km à l'est de la capitale Khartoum.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a rejeté hier un compromis budgétaire bâti au Congrès parce qu'il ne comprend pas de financement pour un mur frontalier avec le Mexique, poussant les administrations fédérales au bord du shutdown. Le locataire de la Maison-Blanche insiste pour qu'un financement du mur à hauteur de 5 milliards de dollars soit inclus dans le budget ou qu'à défaut, une enveloppe substantielle soit consacrée à la sécurité aux frontières. Faute d'accord sur le financement du gouvernement, avant vendredi minuit, certaines administrations devraient devoir fermer et mettre des employés au chômage technique. Toujours aux États-Unis, le patron du Pentagone, Jim Mattis, a annoncé hier sa démission du gouvernement de Donald Trump au lendemain de l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie qui a pris de court ses alliés. L'administration Trump prépare également un retrait important des troupes stationnées en Afghanistan, a indiqué jeudi soir sous couvert d'anonymat responsable américain. Le Wall Street Journal et le New York Times évoquent le départ de la moitié des 14 000 militaires américains présents sur le sol afghan. Le Conseil de sécurité s'exprimera aujourd'hui sur un projet de résolution autorisant l'envoi des observateurs au Yémen et visant à entériner les résultats des récentes consultations inter-yéménites tenues en Suède selon des diplomates. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Bonne suite de programme sur VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.